Aujourd'hui, il est question de la gouvernance mondiale depuis 1944. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes les autres émissions, les fiches pédagogiques à destination des élèves de terminale, mais aussi des auditrices et des auditeurs. Se cultiver, c'est pas mauvais pour la tête, surtout en période de confinement. Ça permet de réfléchir à la suite. Je vous propose de retrouver Serge Tizi, la gouvernance mondiale depuis 1944.
Bonjour chers lycéens et lycéennes, auditeurs, auditrices qui m'écoutaient aujourd'hui dans cette nouvelle émission sur l'histoire-géographie pour terminale. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gouvernance économique dans le monde depuis 1944. La problématique pourrait être quels sont les principes qui gouvernent l'économie mondiale et quelles en sont les grandes évolutions depuis la fin du second conflit. J'intitule ma première partie « 1944-1976, naissance et développement de la gouvernance mondiale dans un contexte de guerre froide ». Dès 1943, les alliés s'entendent pour réorganiser le monde d'après-guerre afin d'empêcher les régimes totalitaires, mais aussi un nouveau conflit. C'est ainsi que cet objectif est concrétisé en juin 1945 à San Francisco par la Fondation des Nations Unies. Les acteurs ont pleinement conscience du rôle de la crise de 1929 dans la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, les États-Unis possèdent 70% des réserves d'or mondiales et produisent 60% de la production totale économique mondiale. Les accords de Bretton Woods aux États-Unis en juillet 1944 définissent donc le dollar à une équivalence or et cette devise devient celle des échanges économiques mondiaux. Les sièges des institutions financières et économiques se trouvent toutes aux États-Unis. C'est le cas du Fonds monétaire international et de la Baird qui deviendra la Banque mondiale. En 1947, le plan Marshall en Europe de l'Ouest et au Japon signe la mise en place de la domination des États-Unis sur le monde libre. C'est une aide massive des États-Unis en échange de l'adoption du modèle politique, économique et social américain. Avec des différences notoires, les États-Unis refusant un État-providence alors que les Européens fondent des États-providence avec une puissante politique sociale et sociétale. C'est cependant un modèle économique contesté. Contesté par qui ? Contesté tout d'abord par l'Union soviétique et le monde communiste, ce qu'on appelle communément le bloc de l'Est, qui développe ses propres institutions et règles d'échange économique, comme par exemple Comecon avec l'Europe. Mais aussi un plan d'aide soviétique à la Chine maoïste dès 1949. Le bloc de l'Est veut un autre développement et rejette le libéralisme économique pour l'étatisme total, seul capable de construire un État socialiste marxiste sans propriété ni liberté individuelle. Les contestations viennent aussi du tiers-monde et des pays qui s'émancipent des puissances colonisatrices. À Bandung, en Indonésie, en 1955, les pays du tiers-monde se déclarent non alignés. Ils tentent d'échapper au choix entre les deux blocs. Soit comme Nasser l'Égyptien, par la nationalisation du canal de Suez franco-britannique face au refus de la Banque mondiale de financer le barrage d'Assouan, soit en s'unissant comme l'OPEP pour maîtriser les prix du pétrole au détriment des compagnies privées. Ces pays non alignés créent en 1964 le G77 pour être plus visible et plus puissant aux Nations Unies, avec une première réunion à Alger en 1967. Juste pour votre information, en 2013, un sommet du G77 a eu lieu en Bolivie avec comme devise « Pour un nouvel ordre mondial, pour le bien vivre », avec un objectif « Éradiquer la pauvreté d'ici 2030 ». La deuxième partie s'intitule « Les années de crise des années 70 à 2000 ». En effet, le monde change. Le monde change parce qu'à partir de 1973, le monde connaît une crise économique mondiale. Le monde change parce que le leadership américain va évoluer et va être de plus en plus contesté. Donc je parlerai dans un premier temps de ce leadership américain et de sa remise en question. Le leadership américain est donc remis en question à partir de la guerre du Vietnam. À la fois parce que c'est une crise politique, mais aussi c'est une crise économique. Pourquoi ? Parce que cette guerre a coûté énormément d'argent aux contribuables américains. Et ceci a creusé la dette américaine. Les réserves d'or américaines ont fléchi et obligent le président Nixon à suspendre la convertibilité du dollar avec l'or et à dévaluer la monnaie en 1971. Cette politique et ces décisions unilatérales obligent les pays producteurs de matières premières à réagir. Et les premiers pays producteurs à réagir sont les pays de l'OPEP, c'est-à-dire ceux qui produisent du pétrole. Majoritairement alliés des États-Unis, mais qui ont besoin de finances puisque le dollar n'est acheté que le pétrole n'est acheté qu'en dollars. À partir de 1973, d'octobre 1973 jusqu'à mars 1974, les pays de l'OPEP ont décidé de multiplier par 4 le baril de pétrole qui passe de 2,59 dollars à 11,65 dollars. D'autant plus que les pays arabes qui soutiennent les Palestiniens après la guerre du Kippour rehausse de 70% le prix du baril et organise des embargos, y compris vis-à-vis des États-Unis ou des Pays-Bas, par exemple, qui soutiennent ouvertement Israël. Ceci crée une panique sur les marchés et des réactions désordonnées dans les pays riches. C'est en fait chacun pour soi. En 1975, pour répondre à la crise, les 7 puissances qui détiennent 75% de la richesse mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, le Royaume-Uni, rejoint ensuite par le Canada, se réunissent à Washington puis à Paris pour fonder le G6 devenant G7 par l'adoption du Canada, avec en plus la CEE depuis 1977. En 1997, le G7 devient le G8 par l'intégration de la Russie après l'éclatement de l'URSS et la fin de la guerre froide entre 1989 et 1992. Ce sont des rencontres annuelles de chefs d'État, puis de ministres, mais il n'y a rien de structurel si ce n'est des décisions communes. La Russie, d'ailleurs, s'est retirée depuis 2017. En fait, depuis 1979, les États adoptent des politiques économiques divergentes au sein de la triade, c'est-à-dire des États-Unis, du Japon et de l'Europe occidentale. Les États-Unis, depuis Ronald Reagan en 1980, et la Grande-Bretagne depuis Margaret Thatcher de 79 à 90, appliquent des règles néolibérales de l'école de Chicago, c'est-à-dire la privatisation, les baisses des impôts, la baisse des services publics, le libre-échangisme et le désengagement de l'État dans l'économie, y compris dans les contrôles notamment du système financier. Ce modèle ultralibéral n'est pas appliqué à l'ouest du continent européen parce que la population est très attachée au modèle social-économique issu de la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle communiste craque aussi de son côté. En URSS, Gorbatchev lance la glasnost et la perestroïka pour réformer par une dose de privatisation l'économie du modèle soviétique. La Chine de Deng Xiaoping, dès 1979, ouvre ses ports aux multinationales qui souhaitent s'y installer, attirées par une main-d'œuvre nombreuse et soumise au diktat du Parti communiste chinois. Le tiers-monde se divise de plus en plus. Les petits dragons asiatiques, Hong Kong, Corée du Sud, Taïwan, Singapour, sortent de sous-développement et s'industrialisent rapidement par des délocalisations et des transferts de technologies venant du Japon. La mondialisation se développe avec les échanges économiques. Les pays du tiers-monde sont dominés par les pays de la triade et ne peuvent se développer sans eux. Les cours mondiaux des produits agricoles ou miniers leur échappent, voire s'effondrent. N'oublions pas que le président socialiste du Chili a été renversé par le général Pinochet en 1973, commandité par la Maison-Blanche pour avoir osé nationaliser les mines de cuivre pour assurer une politique scolaire gratuite. La fin du communisme en 1992 ne laisse plus guère le choix à une autre politique économique que le libéralisme triomphant. En 1995, l'Organisation mondiale du commerce remplace le GATT. Il s'occupe de l'industrie, de l'agriculture, des services et des propriétés intellectuelles, c'est-à-dire des brevets. Elle veut promouvoir une nouvelle gouvernance et éviter les guerres commerciales. Cependant, la ligne politique de l'OMC est clairement ultralibérale. C'est pourquoi elle est critiquée par les altermondialistes qui veulent une économie plus humaine. Les unions économiques comme l'Union européenne, l'ALENA, c'est-à-dire l'Alliance du Mexique, des États-Unis, du Canada, le Mercosur en Amérique latine, ou des organisations transnationales comme les BRICA, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, démontrent des clivages et des intérêts divergents. La triade, c'est 20% de la population mondiale pour 70% des échanges et de la richesse. Ils protègent leurs marchés intérieurs et empêchent les pays en voie de développement d'accéder à leurs marchés. Donc le Mercosur et les BRICA sont des moyens pour les pays d'accéder aux plus grands marchés que sont l'Union européenne et l'Amérique du Nord, ou le Japon. Une troisième partie s'intitule « Les années 2000-2020, un nouveau monde en construction et les nouveaux défis de la gouvernance ». Le G20 a été fondé par une réunion du G7 en 1999, lorsque les ministres des Finances des pays les plus riches ont constaté la baisse du poids économique du G7 et la montée en puissance des 10 pays émergents, dont le Mexique, la Chine, l'Inde, l'Argentine, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, la Turquie. En 2017, le G20 représente 85% du PIB mondial pour 63% de la population. Un seul pays représente l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Le G20 a pour but de pallier l'ONU et le droit de veto des 5 puissances au Conseil de sécurité. Il a pour charge la stabilité financière, mais aussi la gestion économique et sociale. Le G20 de Buenos Aires en 2018 avait 4 grandes priorités. L'avenir du travail avec, par exemple, la fin de l'esclavage, l'imposition de droits du travail et de conformité de l'OIT qui fixe les horaires à 8 heures par jour, la sécurité alimentaire, l'égalité des sexes. Le G20 à Osaka en 2019 avait pour thème des traités de finances, l'anticorruption et des résolutions pour les enjeux climatiques et les enjeux de migration. La crise américaine de 2007-2008 est un facteur aggravant dans la gouvernance économique mondiale. Les économistes assurent qu'elle est semblable par son ampleur à celle des années 30. Les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, ont subi de plein fouet cette crise qui a remis en question le modèle ultralibéral dans l'état d'esprit de la population. 1% de la population ne peuvent détenir 90% des richesses d'un pays ou de la planète. Chaque pays réagit à sa manière pour faire face à cette crise. Les États-Unis d'Obama nationalisent des industries automobiles par une intervention économique de l'État fédéral. La réserve fédérale imprime des billets pour financer la dette publique et fournir des liquidités aux entreprises. Le Yes We Can donne un taux de chômage de 5% aux États-Unis avant l'élection de Donald Trump. Dans l'Union européenne, l'Allemagne, mais aussi les Pays-Bas, l'Autriche, les pays du Nord en règle générale, refusent de créer de la dette et maintiennent une politique d'austérité, en étant très rigoristes vis-à-vis de la Grèce, mais aussi du Portugal, de l'Irlande. La BCE, avec l'Italien de Mario Draghi et François Hollande, opte pour une politique plus souple, mais reste quand même figée dans les 3% de déficit public des critères fixés en 1982. Les pays émergents ne profitent pas de la crise économique et sociale, car les marchés où ils vendent leur production industrielle, pour la Chine ou agricole pour le Brésil, se trouvent dans les pays de la triade, où se trouve la seule classe moyenne mondiale capable d'absorber et de consommer les produits. Les économies des pays émergents et plus encore des pays en voie de développement sont donc dépendants des pays de la triade, c'est-à-dire de l'Amérique du Nord, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, de l'Union européenne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Les enjeux climatiques, mais aussi sociaux, sont déterminants. La moitié de l'humanité vit avec 1 euro par jour et sans eau courante. Les FTN, les firmes transnationales, sont souvent plus puissantes que les États. Ils se moquent d'ailleurs des règles du travail et des règles climatiques. Ils font travailler par exemple des enfants comme Nike en Indonésie, ils exploitent à bas coût l'uranium au Niger, ils détournent des sommes colossales au fisc de leur propre pays, mais ont pignon sur rue et s'expriment dans les médias et à la télévision, dans la presse et sur Internet, qui souvent même leur appartient. Ils refusent tout contrôle économique sous prétexte qu'ils participent au rayonnement de leur propre pays. C'est le cas notamment de Total, c'est le cas d'autres entreprises comme Google. Au fur et à mesure des crises et des scandales financiers, de plus en plus de citoyens et d'organisations demandent le retour au contrôle de l'économie par les États et la fin de l'ultralibéralisme. La première tentative, c'est la taxe dite Tobin sur les transactions financières proposées par le prix Nobel d'économie dans les années 1970, qui n'est toujours pas appliquée car le principe, même très faible, de 0,1 à 0,5% dérange le mouvement financier. Et il n'y a pas de volonté mondiale de l'instaurer pour l'instant. La deuxième critique est celle d'une mondialisation multilatérale. Elle vient paradoxalement du pays qui a initié la mondialisation, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. L'élection de Donald Trump a mis fin au multilatéralisme. Les États-Unis n'ont pas signé les dernières résolutions du G20, tout comme ils se sont retirés des accords de Paris sur le climat. Les États-Unis préfèrent des accords bilatéraux, où ils peuvent parler en position de force. Les États-Unis de Trump souhaitent l'affaiblissement des structures régionales, que ce soit l'UE en soutenant le Brexit ou en soutenant Bolsonaro pour le Mercosur. Diviser pour mieux régner. Le centre économique mondial s'est déplacé de l'Atlantique. Il est désormais centré sur le Pacifique avec des pays déterminants comme la Chine populaire, Atelier du Monde, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong. En conclusion, nous pouvons dire que la crise actuelle démontre que si l'humanité veut se développer, elle doit le faire non seulement économiquement, mais aussi socialement et en protégeant l'environnement. La crise sanitaire du Covid-19 montre très clairement les risques mondiaux pour l'humanité, que tout ne peut être rentable économiquement, que le développement des pays du G20 dépend de celui des 177 autres pays. La gouvernance économique ne peut se faire sans gouvernance sociale et environnementale fraternelle. Voilà, chers élèves, chers auditeurs, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la question de la gouvernance en peu de temps, en fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon confinement, si on peut dire ça ainsi. Et puis, je vous retrouverai donc pour une nouvelle émission d'histoire et de géographie pour les terminales. Au revoir.
Durant cette crise sanitaire majeure, toutes les équipes de Fréquence Mistral se mobilisent pour vous informer et vous divertir. Retrouvez chaque jour nos infos de la musique et des émissions riches et variées. Nous vous invitons à écouter le direct et réécouter tous les podcasts de nos émissions sur le site de fréquencemistral.com. Fréquence Mistral, ma radio, mon pays.